Good morning. I'm Hans Gorgo Ruprecht. This is CKCU Literary News, bringing you Parole d'Afrique, une émission animée par Antoine Hulu Garcia à Paris.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre émission dont vous avez désormais l'habitude, consacrée à la littérature africaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un critique littéraire et auteur d'origine congolaise, qui est également le co-rédacteur en chef de la revue Africulture, j'ai nommé Boniface Mungombusa. Boniface, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir aujourd'hui répondre à nos questions, ici à la librairie Galerie Congo à Paris, qui nous fait une fois encore l'honneur de nous accueillir. Vous avez récemment publié une très belle biographie du grand poète congolais Chikaya Outamsi, le Rimbaud africain, mais nous en parlerons dans un instant, car avant cela, je voudrais vous interroger sur la littérature africaine en général, oui. Littérature que vous connaissez parfaitement, vous qui avez écrit deux essais passionnants à ce sujet, « Désir d'Afrique » et « L'indocilité ». Boniface, première question, vous savez que nous sommes entendus à Ottawa, tout près de Québec, or il existe, chez certains auteurs québécois, des communautés d'écoute, où les influences mutuelles sont développées à travers des amitiés fortes entre écrivains. Existe-t-il en Afrique de telles communautés d'esprit littéraire ?
Vaste question. Le monde littéraire est souvent un monde cruel, on le sait, paradoxalement. Pourtant, c'est le monde de l'esprit, mais c'est un monde qui est fait de commérages, de jalousie. Il y a eu une seule fois en Afrique, précisément au Congo-Brazzaville, ce que Sylvain Bemba appelait la fratrie. C'était une sorte d'une association informelle des écrivains dans le cadre, je pense, du marxisme. Il faut le préciser parce que le parti dirigeait l'État et les écrivains avaient peur de perdre leur âme, une sorte d'autonomie. Donc ils ont créé au sein de la société congolaise, disons une société dans la société qui était une société qui était faite d'entraide, de parrainage aussi, et souvent des écrivains qui étaient des hommes politiques, je pense précisément Henri Lopez et Tati Loutard, ils ont été des mécènes de manière déguisée parce qu'ils étaient une sorte d'interface entre l'État et la communauté des artistes. Mais cette société n'a pas survécu après la mort des gens aussi généreux et éminents comme Sylvain Bemba, le départ d'Henri Lopez à l'UNESCO et la mort de Tati Loutard. Donc c'est une génération assez exceptionnelle qui a réussi à créer cette fratrie-là. Et d'ailleurs, elle n'a pas survécu. Il y a actuellement pas mal d'écrivains congolais de qualité qui n'ont pas réussi à faire survivre ça. C'est le seul pays en Afrique, disons francophone, qui a réussi à créer cette fratrie. Bon, ensuite, il y a eu la personnalité de Senghor, mais c'était très différent parce que Senghor étant chef d'État et puis étant un peu le père de cette littérature, les gens... Non, il n'y a pas de société à ce que je sache.
Donc on ne peut pas vraiment faire, par exemple, de parallèle avec tout ce qui a pu exister dans l'entre-deux-guerres en France, comme La Ruche ou toutes ces communautés d'artistes où il y avait Modigliani, Picasso, etc. Il n'y a pas vraiment eu ce phénomène-là en Afrique.
Non, il n'y a pas eu ce phénomène-là en Afrique. Il n'y en a pas eu. Souvent, on ne le dit pas publiquement, c'était une société faite de rivalité.
Et au niveau de l'édition africaine, parce que ça c'est aussi une problématique assez importante, comment l'édition africaine se développe et notamment le rôle des revues? Y en a-t-il vraiment un ou est-ce qu'on est dans un phénomène assez marginal?
Oui, il y a eu par exemple un moment au Cameroun une grande revue qui s'appelait Abia. Senghor a créé la revue Éthiopie qui existe bon an mal an. Il y a eu au Congo une grande revue qui s'appelait Liaison, c'est-à-dire c'était une revue qui assurait justement, comme le nom l'indique, la liaison de tous les États d'Afrique centrale, l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Et cette revue avait comme pour rédacteur en chef Lomami Chimbamba, qui est lui un écrivain de la RDC, mais qui vivait à Brazzaville. Et dans cette revue, ils ont réussi à accueillir, par exemple, les premiers poèmes de Chikaya Outamsi, des gens comme Teofilo Benga, Sylvain Bemba, ont écrit, voire même des présidents comme Massamba Débal ont écrit dans cette revue. Mais c'était une revue créée à l'époque coloniale, qui est très dans, comment dire, dans l'effervescence de l'Union française, de la communauté française, la loi cadre, il fallait bien former des cadres, ils ont créé cette revue-là. Malheureusement, cette revue n'a pas survécu. Je viens de la francophonie, j'ai récupéré ce dictionnaire français Lingala Songo, donc on est là dans le bassin du Congo, donc le Lingala c'est quand même une langue du fleuve. Absolument. Qui est parlée sur les deux rives du Congo, et puis le Sango qui est une langue de la République centrafricaine, et le dictionnaire est édité par Moatan Galasso. Je pense qu'il y a une urgence, en tout cas ce qui concerne l'Afrique centrale, de faire revivre cette communauté d'esprit qui a existé dans les années 50 et qui, hélas, aujourd'hui n'est plus... Alors, vous parlez, par exemple, de maisons d'édition.
Oui.
Alors, pour les revues, donc, Éthiopie continue à exister, la revue Liaison ne paraît plus, la revue Abia non plus... Il y a eu Orphée Noir, je crois, au Nigeria, je ne sais pas ce qu'il en est. En ce qui concerne la maison d'édition, il faut saluer là encore le travail de Senghor, qui, dans les années 70, avait créé ce qu'ils appellent les nouvelles éditions africaines. Mm-hmm. Et ces nouvelles éditions africaines rassemblaient tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali... Et malheureusement, cette institution n'a pas pu survivre aux vicissitudes de la balkanisation. Et ça, c'est le premier échec. Le deuxième échec, c'est peut-être le fait qu'ils n'avaient pas pensé à la distribution. Et ils n'avaient pas aussi mis l'accent sur, disons, la littérature populaire ou la paralittérature. C'était une maison d'édition qui a publié énormément de thèses qui font autorité. Or, les thèses, on le sait, c'est pratiquement des livres lus exclusivement par des universitaires. Il y a eu deux, trois romans qui ont été publiés par cette maison d'édition, il faut le dire. Une si longue lettre de Maria Maba, et puis Le Baobab fou de Ken Bougoul. À la suite, chaque pays a pris son autonomie. Donc, il y a eu les NES, Nouvelles Éditions Sénégalaises, NEIT, nouvelle édition togolaise, et puis NEI, je crois, nouvelle édition ivoirienne. Voilà.
Alors, vous mentionniez Senghor, effectivement, et son importance, que ce soit au niveau éditorial ou au niveau, bien évidemment, littéraire pur. Qu'en est-il de l'intertextualité poétique contemporaine chez les auteurs actuels ? En d'autres termes, quel est l'impact, quel est le poids du prestige des maîtres de la poésie africaine, d'expression française sur les jeunes lions d'aujourd'hui ?
Bon, il y a deux totems, hein. Senghor au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, et puis Chikaya Otamsi au Congo, en Afrique centrale, pas favorablement, en Afrique tout court. Il y a deux totems. Alors, est-ce qu'ils sont à la hauteur des aînés? C'est très difficile. Le grand problème, je pense, il faut le dire, le grand problème avec la littérature africaine contemporaine, c'est qu'on est dans un contexte où, violent ce que je vais dire, peut-être que ne resteront que les classiques. Et les fils n'ont pas réussi à tuer les pères. Et ça, c'est un vrai problème.
Alors, quel avenir voyez-vous à la littérature africaine?
Je pense que la littérature africaine, surtout francophone, doit, comment dire, réinvestir le récit, tout court, tout simplement. Et je pense qu'il y a un vrai problème. Quand vous prenez un texte d'un auteur anglophone, vous prenez un texte d'un auteur francophone, vous voyez vraiment la différence qui saute aux yeux. Les anglophones, ils n'ont pas des prétentions d'intellectuels, ils veulent faire du récit. Or, je pense, je ne sais pas d'où ça vient, et c'est peut-être l'influence, l'impact du nouveau roman, les écrivains francophones, en tout cas ceux de ma génération, se veulent plus intelligents. Le romancier, par définition, n'est pas un être intelligent. Le roman, je pense, a des règles propres et qu'il faut respecter. Je pense qu'il faut réinvestir le récit, tout simplement. Il faut réinvestir le récit.
Et en mentionnant les auteurs anglophones, vous pensez certainement à Soyinka, qui a eu le prix Nobel, et donc une certaine reconnaissance que les auteurs francophones n'ont jamais eue.
Oui, ben Chinua Achebe, Yvonne Vera, même la jeune génération, regardez actuellement la nouvelle génération nigérienne qui est très très dynamique. Le récit d'abord. Et je pense que les écrivains francophones ont du mal à faire du récit. Alors, à quoi cela est dû? Regardez ce qui s'est passé en Amérique latine. On vient de célébrer Marquez. Dans les années 70, en France, on disait que le roman était mort. C'est vrai. Mais les latino-américains n'ont pas entendu de cette oreille. Ils ont réinvesti le roman. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au XXe siècle, vous avez Vargas Llosa, vous avez Marquez, vous avez Juan Rulfo. Quoique le roman a beaucoup évolué, ce qu'on appelle, quand on voit ce que font les gens comme Eric Villamatas ou bien Sebald, on n'est plus dans le récit classique. Or, pas dans la littérature francophone, c'est qu'on n'est pas non plus dans le grand roman, mais on n'est pas dans les inventions des formes nouvelles. Sebald a inventé une forme nouvelle. Enrico Villamatas a inventé une forme. Si on ne peut pas faire du récit classique, en ce moment-là, il faut inventer une forme. Or là, on est dans une aporie. On n'invente ni la forme, ni dans le récit.
Alors, parmi les figures tutélaires que vous mentionniez, il y avait Senghor et Chikaya. Senghor est très connu en France, très connu aussi, bien évidemment, vous le mentionniez, par son rôle de président de la République du Sénégal, de premier président. Chikaya est tout de même moins connu en France, il faut le reconnaître, et également au Québec et au Canada dans son ensemble. Pouvez-vous nous parler de Chikaya Utamsi et également nous expliquer ce que signifie ce surnom ?
Alors, ce surnom, on va commencer d'abord par le surnom. Le surnom, tout le monde a repris en cœur que le surnom signifierait la petite feuille qui parle pour son pays. Or, récemment, un érudit Vili, donc de son pays natal, a dit que Chikaya, c'est le placenta. Bon, il y a peut-être une sorte d'homonymie, c'est-à-dire peut-être que le placenta a signifie aussi feuille en Vili. Ce qui est certain, c'est que dans ce choix de pseudonyme, Chikaya avait voulu se démarquer du père parce qu'en fin de compte, son père était un homme politique très important qui rêvait d'une carrière de tribun pour son fils et son fils l'a déçu, son père. Et donc, il a choisi ce pseudonyme-là.
Alors, il faut peut-être préciser à nos auditeurs que le père de Chikaya Utamsi s'appelait Jean-Félix Chikaya, et que le fils, le poète, s'appelait Gérald Félix Chikaya.
Tout à fait.
Et il y a eu des confusions assez fréquentes, et notamment Lumumba avait fait
confusion. Oui, il y a eu des confusions mémorables. Lumumba qui le confondait à son père, même quand son père était député ici en France dans les années 50.
Sous la 4e République.
Et il y avait des électeurs qui, dans la rue, quand ils croisaient Chikaya, ils disaient « Ben, vous êtes très jeune pour un député », ou bien et quand il croisait le père, il disait « Monsieur le député, bravo, vous avez du talent », parce qu'à l'époque, tous les députés africains étaient quasiment des poètes. Il y avait Damas pour la Guyane, Césaire pour la Martinique et Senghor pour le Sénégal. Il y en avait eu même un qui s'appelle Fili Dabo Sissoko pour le Soudan à l'époque, et qui lui aussi était poète. Alors, et pourquoi Chikaya n'est pas connu? Mais Chikaya a eu le tort d'abord d'être un fils rebelle, et ça on ne lui a pas pardonné. Ce n'est peut-être pas tant Senghor et Césaire, mais par les admirateurs de Senghor et Césaire, les turiféraires, qu'il s'agit des universitaires, des poètes, n'ont pas pardonné, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Chikaya est une sorte de poète maudit, un homme très très difficile à vivre. Et donc, ça lui a joué aussi un sale tour. Il y avait ce qu'on appelle sale caractère. La troisième chose, c'est qu'il n'avait pas vraiment pas de stratégie littéraire en tant que telle. Il publiait à tout vent, donnait à un éditeur qui était souvent un ami et qui le lendemain faisait faillite. Et tout cela n'a pas contribué vraiment à l'émergence de Chikaya Utamsi. Ceci dit, il était reconnu par les pairs comme un grand poète. Et je pense que pour un écrivain, c'est peut-être surtout pour un poète, la reconnaissance la plus importante.
Et c'est aussi un petit peu, à travers tout ce que vous avez dit, on comprend pourquoi il est souvent comparé à Rimbaud et qu'il est considéré un peu comme le Rimbaud africain.
Oui, lui-même, il a écrit quelque part dans Le Mauvais Sang que je me sens une parenté avec un certain Arthur. Il se trouve que Chikaya Utamsi, et c'est ça ce qui est surprenant, n'a aucun diplôme. Il n'a aucun diplôme, il a fait l'école buissonnière, il a fait des fugues comme Rimbaud. Son premier recueil, il s'intitule Le Mauvais Sang. Et donc, on l'a souvent associé au Rimbaud noir. Mais moi qui ai fait des études russes, moi je trouve une parenté avec Marina Tsvetaeva, surtout au niveau de la syntaxe. Chikaya a une syntaxe très particulière, et c'est ce que fait quelque part aussi Marina Tsvetaeva. Le Rimbaud noir, oui, c'est vrai, par le parcours, mais aussi, je dirais, Tsvetaeva en pantalon.
Alors, vous venez de publier une biographie de Chikaya. Donnez-nous envie, en quelques mots, de lire Chikaya.
Mais Tchikaya se veut voyant, c'est déjà capital. Tchikaya a une poésie qui est faite de rupture, d'ellipses, de collages. Il y a beaucoup de collages. Et je pense que ça, c'est déjà une modernité extraordinaire pour un poète africain, surtout dans les années 50. Et je pense que de ce point de vue, et je vous ai parlé aussi de la syntaxe, il y a une syntaxe particulière, une poésie très théâtralisée qui le rapproche souvent de Césaire. Je pense, et puis avec une voix très 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 personnelle, il y a un autre aspect de la poésie de Tchikaya, c'est que Tchikaya est marqué par le syncrétisme religieux. Et de ce point de vue, ça vaut le détour parce que c'est pas souvent fréquent en Afrique.
Alors Boniface Mongomboussa, je précise que vous serez l'un des invités du prestigieux Marché de la Poésie qui se tiendra à Paris, place Saint-Sulpice, où sera notamment présentée une anthologie intitulée « Voici ma tête congolaise », anthologie qui regroupe de nombreux poètes congolais, dont bien évidemment le grand Tchikaya dont nous venons de parler. Je propose de lire un poème de Tchikaya qui fait partie de cette anthologie afin de donner envie encore plus à nos auditeurs de le découvrir.
Merci.
Pousse ta chanson, mauvais sang. Comment vivre ? L'ordure à fleur de lame, être à cher regret l'atrocité du sang fleur d'étoiles, le nargué des serpents dans la nuit sifflaient comme des cuivres. Cotillon, mille soleils ressacent pour un chant d'orgue, mon sang s'est dispersé car un preux demain dira sur ma ville tout comme un beau destin. Nous n'irons plus pleurer sous le ciel gris des morgues. Je serai la mouette de la morte par des veines, à un grand gibet levé remise pour les peines. Je serai la mouette, la morte par des veines, un grand gibet levé, remise pour les peines, m'emporte haut et fier, en habit festonné. Pleure, le malheur viendra ternir les diamants, ton sang te matraque, ô mes cœurs époumonés, je suis noir, fils solaire, à main, le chant dément. Boniface Mongomboussa, merci d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous avez écrit deux essais sur la littérature africaine, le premier « Désir d'Afrique » et le second « L'indocilité », publiés tous deux chez Gallimard. Gallimard, vous êtes également en train d'assurer la publication des œuvres complètes de Tchikaya Outamsi dans la collection « Continent Noir » et vous venez de faire une biographie que je recommande à tous nos auditeurs de Tchikaya, qui s'intitule « Tchikaya Outamsi, le viol de la nuit, vie et œuvre d'un maudit », qui est paru aux éditions Vendailleurs. Quant à vous, chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à commenter, suggérer et critiquer mes chroniques sur ma page Facebook Antoine Oulou, H-O-U-L-O-U, et je vous dis à très bientôt. Pour CKCU Literary News, Antoine Oulou Garcia, à Paris.
De la radio communautaire de Carleton University Ottawa, c'était Parole d'Afrique, une émission de CKCU Literary News. Comme toutes nos émissions littéraires diffusées en trois langues, celle-ci vous est aussi offerte par Balado Diffusion Podcast, ainsi que sur notre liste lecture automatique CKCU On Demand, telle qu'indiquée dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter. Au plaisir de vous lire et merci.